ne sera rien. Rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
sur 93.8 MHz, la suite de On de Femmes, comme tous les mercredis soirs. J'ai envie de vous rappeler aussi que donc le programme a un peu changé les mercredis, c'est-à-dire que On de Femmes va diffuser jusqu'à 22h et à partir de 22h à 23h, il y a une heure d'émission sud-américaine. Radio Pleine Lune, On de Femmes, 93.8 MHz, c'est les informels qui vont commencer là tout à l'heure avec les nouvelles suivies à 19h par le Memento de Marjolaine. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, c'est aussi un téléphone. Vous pouvez nous appeler pendant les émissions en direct, donc jusqu'à 20h. N'hésitez pas, dites-nous que vous nous aimez, dites-nous aussi si vous avez des critiques. On est très ouverte, on est très blindé, donc téléphonez-nous au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 0033 depuis Lausanne. Informel sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. Brésil, une femme condamne les chefs de la mafia carioca, donc ceux qui viennent de Rio de Janeiro, à 6 ans de prison. Il contrôle le milieu des jeux, de la drogue, il finance le carnaval. 14 intouchables brésiliens sont tombés grâce à la ténacité de Denise Prossard, une juge pas comme les autres. Castor de Andrade, Anis Abrajo, le capitaine Guimarães, tous ces personnages, plus 14 chefs donc de la mafia carioca, viennent tous d'être condamnés à 6 ans d'emprisonnement. Une sentence qui choque les Brésiliens, car ces hommes cultivaient de telles amitiés dans les milieux de la politique, de la police, de la finance et des arts, qu'ils semblaient jouir d'une impunité à vie. Aujourd'hui considérée comme la dame de fer de la justice de Rio, Denise Prossard leur a déclaré la guerre. Pendant 6 ans, elle a instruit un lourd dossier contre ces bandits si respectables. Cette femme de 42 ans refusait toute confidence aux journalistes qui l'assaillaient. Avec un sourire, elle admettait avoir subi de fortes pressions pour abandonner la partie. Mais comment Denise Prossard a-t-elle pu seule condamner les poids lourds de la mafia ? La magistrate les a accusés de formation de quadrilles, gangs et de bandes armées, sachant fort bien qu'ils ont aussi tué beaucoup de gens. Si Denise Frossard avait inculpé les 14 bandits d'homicide, il aurait fallu réunir un jury trop long, trop compliqué. Pendant de longues années, cette mafia a constitué chaque membre de cette mafia, une immense fortune grâce à une loterie illégale ayant envahi les trottoirs. Ces mêmes mafiosi jouent également un rôle important dans le narcotrafic qui gangrène Rio, mais la justice n'a pas encore accumulé de preuves suffisantes. S'appuyant sur des députés qui défendent leurs intérêts, ces mêmes mafiosi ont été reçus comme des princes par divers maires et gouverneurs de Rio. Maintenant, c'est fini. Ils sont tous sous les verrous. Le meurtrier d'un jeune Japonais acquitté aux États-Unis. Il a fallu à peine plus de 3 heures dimanche à un jury de Baton Rouge en Louisiane pour acquitter Rodney Pierce du meurtre d'un lycéen japonais qui s'était présenté à sa porte un soir d'octobre pour demander son chemin. Yoshihiro Hattori, 16 ans, cherchait ce soir-là, en compagnie d'un ami américain, la maison où se déroulait une fête d'adolescents. Hattori, qui ne parlait pas l'anglais couramment, n'avait pas obtemporé au freeze stop lancé par cet homme qui était allé chercher son Magnum 44 après le coup de sonnette des deux adolescents. Le jury a été sensible aux arguments de l'avocat de la défense qui avait déclaré dans sa plaidoirie finale « Dans votre maison, si vous le voulez, vous avez le droit de répondre avec un fusil à quiconque se présente à votre porte. » Le père de la victime a simplement qualifié le verdict d'incroyable. En France, manifestation de pères divorcés à Paris. Ils sont 4% en France à demander lors d'un divorce la charge des enfants. Pour que leur soit reconnu un droit égal à celui de la mère, une centaine d'entre eux ont manifesté samedi à Paris. Pour l'égalité parentale, l'enfant a besoin de ses deux parents. L'enfant n'est pas l'objet de sa mère. Contre la persécution des pères devant les tribunaux, maman n'abuse pas. Samedi dernier, une centaine de pères ont défilé à Paris en distribuant des tracts dénonçant, je cite, « le côté systématique de l'attribution du droit de garde des enfants à la mère, le mode de calcul et de fixation des pensions alimentaires qui entraîne, je cite toujours souvent, pour le parent non gardien, une situation catastrophique. » Organisée par l'association SOS Papa, cette manifestation revendiquait, je cite, « une égalité de droit entre la mère et le père. » Créée en 1991 à l'initiative de Michel Tison, regroupant 1500 membres, ce mouvement de défense des pères s'est lancé dans une campagne de sensibilisation. Sur 100 000 divorces prononcés chaque année devant les tribunaux, la garde des enfants, 120 000 mineurs concernés, est attribuée dans 85% des cas à la mère. Seuls 9% des pères obtiennent la garde de leurs enfants. Explique Michel Tison. Sur les 2 millions d'enfants de divorcés, 600 000 ne voient plus le parent qui n'a pas la garde, le plus souvent le père, et 400 000 le voient moins d'une fois par mois. Un des membres de l'association explique la misère de ses pères. On leur demande de s'engager beaucoup plus dans la vie des familles, dans l'éducation des enfants. Et soudain, après une séparation, on les éjecte. Le droit de visite, si tant qu'il soit respecté, est frustrant. Comment voulez-vous élever des enfants en les voyant un week-end sur deux? Et d'ailleurs, pense-t-on suffisamment aux enfants? SOS Papa demande que soit appliquée en France la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. L'enfant a besoin de ses deux parents. Il a un droit absolu à l'affection et à l'éducation de son père comme de sa mère. Pour Jean-Claude Cross, juge aux affaires matrimoniales, ses pères combattent temps ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Je le cite. Le juge ne distribue pas de diplôme de bonne ou mauvaise paternité. Il faut affirmer les droits des pères dans la loi, mais il ne faut en faire ni des héros ni des martyrs. Il souligne d'ailleurs que seuls 4% des pères réclament, lors d'un divorce, d'assurer l'éducation de leurs enfants. Et d'une manière générale, dans 90% des divorces par consentement mutuel, ils ne se battent pas pour obtenir les enfants. D'ailleurs, les statistiques démontrent qu'un tiers des pensions alimentaires sont payées, un tiers ne le sont que partiellement, un tiers ne le sont pas du tout. La manifestation de samedi est peut-être le signe d'une évolution du rôle des pères induite par l'augmentation du nombre de divorces. Ils ont presque triplé entre 1970 et 1990. Cette crise profonde de la famille, dans laquelle la répartition des rôles a changé, a contraint la loi à s'adapter. Le droit des pères célibataires, notamment, est aujourd'hui reconnu et l'autorité parentale conjointe a été instaurée. Toujours du côté des enfants de parents séparés, en Angleterre, des enfants exigent de leur père qu'ils usent de son droit de visite. Aaron, 11 ans, Nicole, 10 ans, ont saisi la justice britannique pour obliger leur père, dont ils sont séparés depuis 4 ans, à leur rendre visite. Ce dernier se contente de téléphoner à Noël et au jour d'anniversaire. Ils ne l'ont plus vu depuis 2 ans et ça leur manque. Ils réclament des vacances, des excursions. Il faut dire que le père vit en Irlande et eux à Birmingham avec leur mère. C'est la deuxième affaire de ce genre en Angleterre depuis l'introduction en 89 d'une loi des enfants qui permet à ces derniers de solliciter le juge en cas de difficulté familiale. Jusqu'alors, seuls des adolescents désireux de quitter le domicile parental avaient recouru à cette possibilité. En Chine, des gamines à l'usine. 30 millions d'enfants chinois âgés de 6 à 14 ans ne sont pas scolarisés, disent les statistiques officielles. Ils quittent l'école pour travailler dans les champs, dans les restaurants et les commerces des provinces côtières du sud et dans les usines. La Grue Blanche, firme textile numéro 1 de Qingpu près de Shanghai, emploie des ouvrières de 12 à 15 ans. Ces gamines ont été embauchées en février 93 pour remplacer des ouvrières adultes qui ont donné leur congé parce qu'ils étaient sous-payés. Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, Heide Simonis devient la première femme ministre-président du Land. Pour la première fois en Allemagne, une femme est devenue ministre-président d'un Land, le Schleswig-Holstein. Heide Simonis, 49 ans, jusqu'à présent ministre des Finances de la région, a succédé à l'ancien président du Parti social-démocrate qui a dû démissionner au début du mois de mai. L'accession de Mme Simonis à la tête du gouvernement régional illustre la montée en puissance des responsables politiques féminines au sein du SPD. Le retrait du président, donc de M. Engholm, a vu émerger deux autres femmes au premier rang du parti. D'abord, Renate Schmidt, 49 ans également, vice-présidente du Bundestag, qui conduira son parti l'année prochaine à l'assaut du bastion conservateur de la CSU en Bavière et qui a été citée comme possible candidate pour affronter le chancelier Kohl lors des élections au Bundestag de l'année prochaine. Ensuite, la flamboyante Heidi Wiechorek-Zöll, 50 ans, qui dispose de nombreux soutiens pour briguer aussi la présidence du SPD. Après l'hiver, le Parti social-démocrate a adopté lui aussi un quota de représentation féminine fixé à 40% pour garantir aux femmes des postes de responsabilité. Aujourd'hui, 27,2% des députés sociaux-démocrates au Bundestag sont des femmes. Une Heide Simonis, une Renata Schmidt n'ont pourtant pas eu besoin de quotas pour s'affirmer. Madame Simonis a été députée. Elle a gagné ses galons au sein de la difficile commission du budget du Bundestag où elle s'est imposée par son professionnalisme et sa combativité. Elle a le sourire chaleureux et le verbe conquérant. Venue elle aussi de l'aile gauche du parti, l'ancienne militante pacifiste antinucléaire défend une stricte orthodoxie financière en matière de dépenses publiques. Angleterre, 2 semaines de prison pour sifflement insolent. Un jeune homme a été condamné à 2 semaines de prison ferme pour avoir sifflé une femme jurée dans une salle de tribunal à Cardiff, au pays de Galles. Depuis les bancs réservés au public, Paul Powell a sifflé la jeune femme alors qu'elle revenait dans la salle en compagnie des autres jurés après des délibérations. Elle s'est contentée de rougir, mais le juge a aussitôt ordonné l'arrestation du jeune homme. Ce dernier, après une vaine tentative de fuite, a présenté des excuses à la cour, lui expliquant qu'il avait été poussé par des amis. Le juge a refusé ses excuses. Il a ordonné sa détention immédiate pour 14 jours pour outrage à la cour. États-Unis, homosexuel confirmé. Le Sénat américain a confirmé Roberta Achtenberg, une militante homosexuelle de San Francisco, à un poste de secrétaire adjointe au département du logement et du développement urbain. Petite nouvelle de par le monde, toujours aux USA, la première astronaute noire rejoint Star Trek. Première femme noire de l'espace, Mae Jemison, prend maintenant les commandes du plus célèbre vaisseau de la télévision américaine, l'Enterprise, qui navigue dans la série Star Trek. Après son premier vrai vol orbital en septembre à bord de la navette spatiale américaine Endeavour, elle réalise à 36 ans un second rêve de petite fille, rejointe sous les traits du lieutenant Palmer, l'équipage multiracial des studios de Los Angeles. À Cuba, la poétesse dissidente Maria Elena Cruz Varela a été libérée. La responsable du mouvement d'opposition illégal Critères Alternatifs avait été condamnée à 2 ans de prison en novembre 1991 pour, je cite, « association illicite et diffamation ». Une nouvelle terrible qui nous vient de Chine. Furieuse d'avoir été condamnée à 2 mois de prison pour violence à la suite d'une plainte de ses voisins, une paysanne du Zhejiang n'a rien trouvé de mieux pour assouvir sa vengeance que de faire sauter toute la famille. Le 9 mai, peu après minuit, son amant et elle-même ont rampé jusqu'à la maison des voisins et y ont disposé des explosifs de fabrication artisanale. La déflagration a fait 9 morts et 1 blessé. Une autre nouvelle, toujours aux États-Unis, $1 million pour un homme harcelé par la directrice. Sabino Guterres, 33 ans, s'est vu accorder $1 million de dédommagement pour harcèlement sexuel par un tribunal de Los Angeles. La directrice du personnel de l'entreprise où il travaillait l'aurait embrassé et caressé sans cesse. À quand l'égalité de traitement? En Suisse, traite des êtres humains, plus de 300 Brésiliennes dans les boîtes de nuit. Une féministe brésilienne s'attaque à ce commerce en mettant sur pied une campagne de prévention dans son pays. Sur les quelques 800 go-go girls de nationalité étrangère qui travaillent dans des boîtes de nuit en Suisse, plus de 300 sont brésiliennes. Elles arrivent après les dominicaines et précèdent les thaïlandaises. La brésilienne Jacqueline Laité, une des responsables du Centre d'information pour les femmes du tiers-monde, le FIT de Zurich, revient d'un séjour au Brésil. Elle met sur pied une campagne de prévention contre la traite des femmes de son pays. Je cite, « Les brésiliennes sont certainement plus nombreuses encore à danser ou se prostituer en Suisse, mais celles qui sont mariées ou l'ont été disposent d'un passeport suisse et n'apparaissent pas dans les statistiques. » En principe, elles doivent avoir 18 ans pour quitter le pays, mais les falsifications sont monnaie courante. Les femmes qui arrivent ici sont souvent des jeunes filles de 16 ou 17 ans. Il est urgent d'informer les Brésiliennes des réalités qui les attendent en Europe. Jacqueline Laité, de retour d'un séjour de 2 mois et demi dans son pays, prépare une campagne de sensibilisation et de prévention avec 2 collègues vivant au Brésil. Elles sont soutenues par le gouvernement brésilien et travaillent en collaboration avec les des écoles, des universités et des groupes de femmes. Les femmes du tiers-monde qui travaillent en Suisse sont go-go girls. En effet, les danseurs de cabaret n'y sont pas contingentés. Les danseuses, entre trois guillemets, reçoivent des permis L, leur permettant de résider 8 mois par année en Suisse. Il est pratiquement impossible pour elles d'obtenir d'autres permis de travail, le Brésil n'étant pas un pays de recrutement traditionnel pour la Suisse. Quant aux femmes qui épousent des Suisses, elles ont généralement connu leur mari par la prostitution. Au Brésil, des charters amènent chaque jour des flots de touristes venant assouvir leurs désirs sexuels. Certaines sont offertes par catalogue, d'autres répondent à de petites annonces. Les femmes brésiliennes sont motivées par des problèmes financiers insurmontables, explique Mme Leite. Le chômage les touche davantage que les hommes. Par ailleurs, les Européens qu'elles rencontrent au Brésil sont en vacances. Ils se montrent gentils et généreux. Les Brésiliennes s'imaginent mont et merveille et comptent aider leur famille une fois à l'étranger. En Europe, elle déchante. La plupart des femmes du tiers-monde qui s'adressent aux filles rêvent de rentrer, mais n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas non plus le courage de rentrer divorcées. Si elles ont des enfants, elles espèrent qu'ils auront plus de chances en suivant leur scolarité en Suisse. La population brésilienne a encore une image très idéalisée de l'Europe. Les Brésiliennes qui sont parties perpétuent cette image, rassurent leur famille, lui envoient de l'argent et ne parlent pas de leur travail ici. Elles ne veulent pas perdre la face. C'est un cercle vicieux. Il faut casser cette mentalité de coloniser. Le tiers-monde existe parce qu'il y a un premier monde qui l'exploite. Et si nous sommes pauvres économiquement, les Européens auraient beaucoup à apprendre de nos qualités humaines. Jacqueline Light et les autres collaboratrices du FIS assistent donc les femmes du tiers-monde en Suisse. Le FIDS, association spécifiquement féminine, a son siège à Zurich. En Suisse, commerce d'ovules franco-suisse. Comme il n'est pas possible de recourir aux dons d'ovules en Suisse, l'hôpital de Genolier, qui se trouve dans le canton de Vaud, envoie ses patientes à Paris, un tourisme favorisé par le vide juridique dans ce domaine. Genolier-Paris, Paris-Genolier, c'est la route des ovules pour certains couples en mal d'enfants. Car ceux qui doivent recourir au don d'ovules pour arriver à une grossesse sont obligés d'aller les chercher en France ou dans tout autre pays autorisant la fécondation in vitro à partir d'un ovule de donneuse. Les hôpitaux de notre pays, donc de la Suisse, ne proposent pas cette technique, bien que la loi suisse ne l'interdise pas. Ou pas encore. Deux raisons à cette attitude. Politique d'abord, bien que la loi d'application sur la procréation artificielle ne soit pas encore prête, les médecins craignent qu'elle ne soit trop restrictive pour permettre de pratiquer le don d'ovules. Ils préfèrent donc attendre avant de s'engager. Technique ensuite, le nombre de donneuses est restreint. Ce type d'intervention nécessite une grosse organisation, affirme le médecin Marc Germont, responsable de la fécondation in vitro au centre hospitalier universitaire vaudois. Le nombre de cas de stérilité nécessitant un don d'ovule est insuffisant pour que cela soit un objectif prioritaire pour nous. Cela fait partie du développement à venir. En attendant, le tourisme des ovules se développe. Il est normal et nécessaire d'indiquer à une femme qu'elle peut avoir recours au don d'ovules pour obtenir une grossesse. Cette technique s'applique presque partout dans le monde, en Europe, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Israël. Il est du devoir du médecin d'expliquer les possibilités actuelles de remédier à la stérilité. C'est ce que affirme le médecin Dominique de Ziegler, spécialiste du traitement de la stérilité à l'hôpital de Genolier. Puisqu'il n'est pas possible de recourir au don d'ovules en Suisse, il envoie ses patientes à Paris. Le traitement préliminaire se fait en Suisse. Ensuite, la patiente, accompagnée d'une donneuse qu'elle trouve elle-même, se rend en France. Le prélèvement et la fécondation in vitro se font sur place, puis retour en Suisse où la patiente est suivie par son médecin. Toute personne a le droit de savoir ce que la science peut faire pour l'aider, quel que soit son problème de santé. La médecine ne s'arrête pas aux frontières, affirme le médecin de Ziegler. Le professeur Aldo Campana de l'hôpital cantonal de Genève est plus réticent, comme son collègue du CHUV à Lausanne, et il pratique donc pas la fécondation in vitro à partir d'ovules. À ma connaissance, cela ne se fait pas en Suisse. Nous attendons la loi d'application de l'article de la Constitution acceptée par le peuple en 1992. Je crains qu'elle ne soit trop restrictive active pour permettre le don d'ovules. Il n'approuve pas ce qu'il appelle le tourisme des ovules. Ces méthodes privilégient une certaine partie de la population et elles échappent à la loi suisse. Mais l'existence de ces filières démontre les dangers d'une législation trop restrictive. Les gens seront obligés de trouver des échappatoires. Je vous rappelle que la technique du don d'ovules est assez compliquée parce qu'il est impossible de congeler l'ovule et il faut donc synchroniser les cycles de la receveuse et de la donneuse, soit préparer la première à recevoir l'embryon et stimuler la seconde pour qu'elle ovule. L'ovule est ensuite fécondé en laboratoire avec le sperme du mari et c'est donc la fécondation in vitro, puis implantée dans le corps de la mère. Suisse, en Valais, les bourgeoises d'Aillée disent oui à la mixité, mais du bout des lèvres. Depuis l'obtention du droit de vote en 1971, les femmes peuvent entrer au Valais dans les bourgeoisies, ces cercles réservés aux citoyens de longue date. Mais à Aillée, dans le Val d'Anniviers, les hommes et les femmes ne se réunissent pas encore le même jour, plus pour longtemps. Depuis 1971, parallèlement à l'obtention du droit de vote, les femmes participent aux rencontres des bourgeois du lieu d'origine de leur mari. À Aillée, les hommes n'ont pas voulu d'elles. Les raisons invoquées furent l'exiguïté des salles, le respect de la tradition. Toujours pas de changement en 1988, depuis l'application de la révision du droit matrimonial, quand les femmes mariées ont pu conserver leur origine de jeune fille ou la réclamer. Cette année, c'est la révision de la loi sur les bourgeoisies dans le canton du Valais, l'occasion d'y introduire le principe de l'égalité, dans le cas d'ailleurs, celui de la mixité. Dimanche dernier, comme les hommes avant elles, les femmes à Aillée se sont prononcées pour la mixité. Mais celles qui prennent la parole le font d'une petite voix. La décision finale revient à une grande assemblée mixte qui se réunira au cours des mois à venir. Si la raison dit oui, le cœur dit non. Yvonne Crétin, la doyenne de l'assemblée, explique « On se gêne devant les hommes et puis on n'oserait plus se laisser aller comme maintenant. » Aline Vogel, plus de 70 ans, a racheté sa bourgeoisie de jeune fille en 1990 pour la coquette somme de 5000 francs. Je préfère que cela continue comme ça. Quand les hommes se réunissent, ils boivent trop. Seule une jeune femme défend le principe de l'égalité. Là-haut, on se sent un peu comme une race inférieure. Il est temps que cela change. On peut avancer en conciliant progrès et tradition. Deux jeunes femmes en Suisse dénoncent une sortie de viol collectif à Clarence. Trois Nigériens auraient tout fait subir à deux jeunes femmes âgées de 16 et 20 ans. Procès ouvert à Vevey. Le procès continue et se poursuit. À Genève, une enquête auprès des électrices genevoises démontre que celles-ci désirent une femme au gouvernement. À la question posée aux Genevois « Faut-il une femme au gouvernement ?», le oui est général. Les hommes balancent entre le qualificatif « utile » et « indispensable » d'une telle présence. En revanche, 63,8% des femmes jugent totalement indispensable l'élection d'une des leurs au Conseil d'État. 67,7% des personnes de gauche ont une opinion identique, alors que celles de droite hésitent aussi entre la seule utilité et la présence obligatoire. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune, ondes de femmes 93.8 MHz. Restez à l'écoute. La suite dans un instant.
Walking. Have you ever experienced a fantasy, a talking